Polar, mais qu'est-ce que tu fous? On croirait voir une fille à jouer à la balle. Bon sang, t'es une fille ou un mec?
Spontanément, les gens pensent qu'il y a une différence de nature entre les hommes et les femmes.
Mon genre, j'ai des difficultés. Je veux bien l'utiliser comme concept. J'ai d'ailleurs écrit à côté.
Hétéromorphe entre des XX et des XY. Ça, c'est un fait. On est garçon ou fille et pas les deux. La position la plus juste, c'est de dire que on n'en sait pas grand-chose.
Oh non, que tu as mauvais genre!
Le gouvernement veut rétablir la parité après le départ forcé de Marisol Touraine la semaine dernière. La ministre qui avait oublié de marquer une Renault 5 Alpine dans sa déclaration de patrimoine a été remplacée depuis par Bernard Kouchner. Problème, il s'agit d'un homme. Et François Hollande a voulu lors de son élection une parité absolue au sein de son gouvernement. En ce sens, Jean-Marc Ayrault a décidé de changer de sexe. Le Premier ministre espère que dans un mois, il pourra se faire appeler Edith Ayrault, en hommage à Edith Cresson. La droite, quant à elle, ne veut pas croire en ses salades. Autre révélation, mais au Parti démocrate chrétien. Cette fois-ci, Christine Boutin serait un reptilien. Ce sont nos confrères de Paris Match qui l'affirment. Un ancien élu des Yvelines aurait des photos de Christine, Marcel, Valérie, Cécile, Marie, Martin sous sa véritable apparence, c'est-à-dire un reptilien Anunnakis de troisième génération. Cela pourrait expliquer la récurrence des visites de l'ancienne ministre à Lourdes, car selon John Rodd, un spécialiste du genre, les reptiliens sont issus d'un système de cavernes. Pour l'instant, Christine Boutin n'a pas démenti appartenir au premier peuple intelligent autochtone de la Terre. Le clash continue entre Alf et Casimir. Sur Europe 1 ce matin, le natif de la planète Melmac a qualifié le résident de l'île aux enfants de peluche asexuée fabriquée en Chine, digne des cadeaux de des fêtes foraines. Ces propos incendiaires de la part du mangeur de chats sont une réponse à ceux de Casimir sur le plateau de Thierry Ardisson dimanche dernier. Le mangeur de gloubi-boulga avait qualifié Alf de sobriquet, de diminutif de Gandalf, c'est-à-dire une ancienne gloire de conte pour enfants, avec un sens de l'humour digne d'Anne Roumanoff. Et enfin, la roqueuse de diamants prend sa retraite. Catherine Lara l'a annoncé ce matin dans une MJC de Poissy, dans les Yvelines. Le violoniste français avait connu ses plus grands succès dans les années 80 en démocratisant la pratique du violon pour les Roms dans le métro. Mais sa sensibilité artistique l'avait poussé à s'orienter dans une catégorie plus féminine, avec en 1896 une victoire de la musique comme meilleure interprète femelle. Du côté des célébrités, Karl Lagerfeld, attristé, a déjà annoncé qu'il créera une collection tout en cuir et en poil de caniche l'hiver prochain en hommage au plus viril des violonistes.
C'était la chronique de désinformation de Romain et on enchaîne avec les mots d'Hélène.
Genre. Ensemble d'êtres, de choses ou d'espèces regroupées en fonction de leur caractère commun, le concept sous lequel on range cet ensemble. Effectivement, le genre qui a pour racine latine la même racine que la naissance, la race, donc d'engendrer, est avant tout un modèle de classification. Et d'abord, la distinction n'est pas entre homme et femme, genre masculin, genre féminin, qui est présent dans la grammaire, où le masculin, bien sûr, l'emporte toujours sur le féminin, le féminin singulier ou le féminin pluriel. Non, le genre est d'abord le principe de distinction entre l'humain et le non-humain. Humain, trop humain, humain, pas assez humain. Tout le XVIIe siècle, jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à Darwin, la distinction est mise entre l'homme et l'animal. Et donc, l'animal est apparenté à une machine, alors que l'homme serait doté de sensibilité. Cette distinction entre l'homme et l'animal va voler en éclats avec le darwinisme. Et donc, on va parler du genre humain comme étant un genre qui est dans la continuité du bonobo, on dirait aujourd'hui, hein, pour ses pratiques sexuelles frénétiques, mais qui est dans la continuité du singe. Et donc, l'idée, c'est que nous sommes tous des grands singes, et donc que dans le genre humain, nous avons une partie d'animalité qui est mise en scène dans les publicités pour les voitures, pour les parfums. Hein, la Renault capture, capturer l'instant, capturer la bête dans une chasse au sexe opposé ou au même sexe d'ailleurs. Deuxième temps de cette distinction de genre, la distinction entre les hommes et les femmes. Évidemment, cette distinction est une distinction d'espèces. Donc, à l'intérieur des genres, on a des espèces et des sous-espèces. espèces qui sont des races. Et évidemment, cette distinction du genre masculin et féminin va croiser la construction des catégories de la race au XIXe siècle et la hiérarchisation des races. Et donc, indissociablement, quand on va parler de genre, on va parler de classe sociale et on va parler de race. C'est ce que, en sociologie, on appelle l'intersectionnalité. Alors, genre versus sexe, pendant longtemps, on a dit le sexe, c'est naturel, c'est une distinction qui repose sur la naturalité biologique, et le genre serait une distinction qui repose sur la distinction sociale des fonctions entre les hommes et les femmes. Je pense, donc j'essuie pour les femmes. Hein, qui va garder les enfants, ça, tout le monde le sait. Ça n'est pas une femme politique, c'est sa domestique. Total, le genre se dégenre, et il se dégenre à partir du moment où l'on va construire un continuum entre les hommes, les animaux, les machines, les femmes. Et donc on a ce continuum où on est tous un peu machines, tous un peu animal et tous un peu hommes et femmes.
On est tous un peu hommes et femmes. Je crois qu'on est pleinement dans cette partie genre, toujours sur Radio Grenouille en direct. Le terme genre qui a été, on nous a donné quelques pistes. Hein, Hélène Thomas, qui est un peu notre Bernard Pivot, qui nous donne des petites définitions comme ça de certains mots importants qui guident toute notre nuit. En tout cas, on va aller plus loin, je crois, Mélanie, dans le terme du genre.
Eh bien, on va continuer en fait sur la définition du terme genre avec Alix et Laura qu'on reçoit tout de suite. C'est pas ça du tout. Je vois Laura qui fait une petite grimace.
C'est pas la définition.
Non. Nous, c'est la langue française est-elle sexiste ?
Alors on y va.
Voilà.
C'est à vous,
c'est
on vous
parti.
Écoute.
Donc, depuis notre plus jeune âge, Monsieur Macho nous inculque que le genre masculin l'emporte sur le féminin. En effet, si l'on analyse notre langue, on remarque qu'elle est systématiquement masculine. À peine le temps de sortir du ventre de notre mère que bam, nous sommes rangés dans le genre masculin, le côté obscur, par la phrase.
Et ben alors, comment est-ce que vous avez appelé votre nouveau-né ?
Historiquement, la Révolution française a failli créer une société où les genres seraient égaux. Mais notre cher Napoléon Bonaparte, qui considérait la femme comme un objet que l'on transmet d'un homme à un autre, a multiplié les termes à valeur masculine et par conséquence le caractère sexiste des mots de la langue française. Prenons les métiers. Nous sommes bien d'accord qu'il existe autant de Dr. Queen que de Dr. House. Et pourtant, ce métier est le genre masculin. Cette profession était interdite aux femmes. On retrouve ce genre de sexisme dans de nombreux métiers, tels que le président, le commandant, le chercheur ou l'écrivain. D'ailleurs, Amantine, Aurore, Lucille Dupin, due pour être considérée non pas comme un femme auteur, mais un auteur, s'appelait George Sand. Le genre féminin est attribué au métier si la profession est liée aux fonctions primaires qui seraient la procréation et malheureusement le ménage. En effet, on retrouve la sage-femme, la puéricultrice et la femme de ménage.
Merci Laura, tout ce que tu dis est très intéressant, mais la langue française nous montre qu'il n'y a pas que dans les métiers que les mots sont sexistes. D'ailleurs, selon Nicolas Bauzet, grammairien émérite, le genre masculin est réputé plus noble que le féminin, à cause de la supériorité du mâle sur la femme. Sympa. Cette maxime est le résultat d'une position discriminatoire. Ainsi, dans la langue française, il existe plus de mots masculins que féminins. Cependant, il se pourrait que cette règle tende à changer, car si on remarque bien, les mots évoluent avec le temps. En effet, certains mots du genre masculin, mais pourtant paraissant féminins à l'oreille, ont changé de genre ou ont la possibilité d'être employés dans les deux cas. Ainsi, il nous paraît peut-être normal de parler d'une alvéole ou encore d'une effluve. Ces mots sont en fait masculins à la base et sont régulièrement employés à contre-emploi. Cette évolution du genre fait écho à une citation d'Aragon qui disait que « la femme est l'avenir de l'homme, mais sera-t-elle aussi l'avenir de la langue française ?» Moins glorieux comme référence, on peut aussi citer Fatal Bazooka quand il parle du sexisme à travers la langue française. Un chien, un animal à quatre pattes, une chienne,
c'est une pute.
Mais à force de parler du genre féminin et masculin dans la langue, il ne faut pas oublier le genre neutre peu présent en français, mais qui existe chez nos voisins anglais, allemands, belges. Si en français, le genre masculin sert de genre fourre-tout, car il est non marqué, le neutre est très utilisé ailleurs. Pour les animaux, par exemple, ce qui signe une grande différence avec notre langue. Avec des « elle » et des « il », notre langue maternelle personnifie les animaux, ce qui n'est pas le cas en anglais pour les pets, qui sont considérés comme des membres de la famille. Donc, mec, avant de parler, ouvre ton bécherel et
fais pas genre.
Merci, mesdemoiselles, pour cette petite chronique sur la langue française. Restez avec nous. On est resté très sud-sud, hein, puisque vous êtes d'Avignon, on est à Marseille. On va aller, si vous êtes d'accord, Quentin et Mélanie, du côté de Clermont-Ferrand. Un gros bisou aux Clermontoises et Clermontois.
C'est ça, je crois.
C'est comme ça qu'on dit, hein ? Oui, on valide là-bas un studio, parfait. Donc on va aller du côté de Clermont-Ferrand pour... Non, pas trop, doucement.
Pas trop,
hein, doucement.
Pour... doucement.
Non, pour nous déjà, au-dessus d'Aix-en-Provence, on est au nord, donc c'est déjà un problème. Donc on y va tranquillement, doucement, on est toujours ensemble sur la nuit du genre en direct sur Radio Grenouille. Et on écoute l'enregistrement fait sur le genre et la langue. On va plus loin sur ce sujet, mais du côté de Clermont-Ferrand, c'est parti.
La nuit du genre. Bonne nuit à vous, bonne continuité dans cette nuit. Et pour continuer sur le thème, je vais vous parler aujourd'hui du genre et de la langue. La première fois que l'on perçoit le genre, bien avant d'en mesurer le sens, c'est par la langue française. Dans le ventre de sa mère, le futur bébé, qui n'est pas encore né, est d'ores et déjà genré. Les parents parlent d'il ou d'elle. Et tristesse et indignation, s'ils ne connaissent pas le sexe, il sera cependant genré du sexe noble, le masculin. En effet, le champ lexical lié à l'enfant le désigne, même si cela n'en est pas un, comme un mâle. On parle d'un embryon, d'un fœtus, d'un bébé, d'un enfant. Genre masculin, féminin, invisible. Serait-ce là l'invention d'une incantation magique qui conjurerait le mauvais sort d'avoir une fille, répétant sans cesse le masculin pour ignorer l'existence possible du féminin ? Eh bien non, c'est la réalité de notre langue, le français. À l'école primaire, les élèves apprennent le genre des mots. Ils découvrent le, la, un, une. Tous les noms usités sont genrés, mâle ou femelle. Quelquefois, on peut imposer aux mots une transsexualité réversible. Ils peuvent passer d'un genre à un autre. Mais il y en a qui persistent et résistent à n'être que le symbole du masculin. Non, ce ne sont pas les mots qui résistent, mais bien les hommes qui se posent comme les grands gourous de la langue et qui trouvent horrible au sens du beau la féminisation des mots. Parfois, cette féminisation a lieu, mais elle est rendue invisible par le fameux « e » muet. Prenons comme exemple le terme « auteur », qui au féminin prend un « e ». Nous disons donc « un auteur », « une auteure ». Ici, le genre est donné par le déterminant qui le précède. Mais lorsque l'on parle de « l'auteur », rien ne naît à l'oreille pour savoir si l'on écoute l'homme ou la femme. Et alors, finalement, la force des mots, la poésie des phrases, le sens des idées doit-il être genré ? Ce qui compte pour nous, lecteurs et lectrices, auditeurs, auditrices, c'est la compétence d'écriture de l'auteur et évidemment, elle ne va pas de pair avec le genre. Maintenant, puisque nous parlons de la langue, révisons ensemble notre conjugaison. 100 filles et un garçon sont venus discuter politique. Appliquons la règle de conjugaison liée à l'auxiliaire être qui est « Le participe passé doit être accordé en genre et en nombre au sujet du verbe. » Je répète donc la phrase « 100 filles et un garçon sont venus parler politique. Quel est le sujet ?» Alors pour le nombre, c'est assez simple. « 100 filles et un garçon, cela fait 101 personnes. » Le participe passé devra donc prendre un « S ». Pour le genre, cela se complique puisque nous avons « 100 filles féminin » et un garçon masculin. Comment faire ? Posons quelques hypothèses. Premièrement, disons que la majorité l'emporte. Ici, les filles sont en nombre supérieur, donc accordons au féminin, ce qui donne « venu » V-E-N-U-E-S. Difficile comme règle à appliquer. Si nous avions comme sujet les garçons et les filles, comment déterminer la majorité ? Deuxième hypothèse, disons que nous allons traiter le participe passé à égalité. Doit apparaître le masculin, venu U, le féminin, E, et le pluriel, S. Mais nous sommes comme dans la première hypothèse, nous écririons venu V-E-N-U-E-S. Si avec deux hypothèses qui semblent logiques, nous arrivons au même résultat, c'est que celui-là doit être juste. Absolument pas. La règle dans ce genre de situation est le masculin l'emporte. Pourquoi ? Quelle justification à cela ? Il fallait bien édicter une règle, nous dit-on. Oui, en effet, mais pourquoi éloigner de toute logique ? Ou plutôt si, dans une logique de domination du masculin sur le féminin, logique adoubée par notre langue qui fait notre éducation, qui nous apprend, nous les filles, à rester à notre place de filles. Car dans la réalité, sans filles et un garçon sont venus parler politique. Les filles parleront peu au vu de leur nombre et le garçon occupera dans la majorité des cas une tribune qu'il s'attribuera. Le français est une langue vivante qui évolue, qui peut progresser aussi vers le traitement égalitaire des genres, voire inventer un pronom neutre pour les objets qui finalement dans la vie ne sont pas genrés.
Voici Barbistar Ferry et la salle à manger de luxe.
Avouez qu'une femme habillée en femme, c'est pas si mal.
Barbie Ferry, tu as invité Ken à dîner dans ta jolie salle à manger.
Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend.
Qu'est-ce qui est futile ?
Rien n'est futile.
C'était Le genre et la langue de Radio Campus Clermont-Ferrand qui nous rediffuse comme une dizaine d'autres villes en France. Et il y a plus en plus de monde dans le studio de Radio Grenouille.
Exactement.
Pas Radio Campus Grenouille.
Énormément de monde à Marseille en ce moment. Bonjour la France, j'espère que vous êtes chez vous en train d'écouter La Nuit du genre. Nous on est plein d'énergie, on boue, on bouillonne.
C'est la folie.
C'est la folie, d'ailleurs on va s'écouter une petite musique qui met la patate. C'est un groupe qui se reforme pour notre plus grand bonheur et qui passe aux Eurocaines de Belfort dans quelques mois. Au début du mois de juillet, c'est Blur, un groupe historique. Et d'ailleurs, Alicia me glissait à l'oreille, sensuellement, puisqu'il est 23h17, on peut se permettre de dire ce genre de choses, que blur veut dire flouter en anglais. C'est ça, tu confirmes ?
Donc, je confirme.
Donc, j'adore quand tu me parles comme ça. Donc, je évidemment, c'est, on essaie là de flouter le genre, de ne plus avoir de genre, de mélanger les genres, de se diriger petit à petit vers ce mélange-là. On écoute Girls and Boys de Blur, et c'est la patate, et c'est tout de suite sur Radio Grenouille.
Yes.
Putain, j'ai soif.
Oh là là, on est pris au dépourvu. Mmh.
Vous êtes sur Radio Grenouille, vous suivez la nuit du genre sur nuitdugenre.tumblr.com. On vient d'écouter le flux de Blur et de bouger notre boutille. La température monte.
C'est pour ça qu'on est un peu essoufflé.
Légèrement, ça s'entend pas.
Chers auditeurs, on est un peu essoufflé. On va faire un petit retour au calme. C'est que Blur, ça.
Ça envoie.
On a bien bougé. C'est bon. On est rassérénés un petit peu là.
Alicia, c'est bon.
Ouais. Je vais la tenter.
Tu vas la tenter.
Bonsoir à tous. Je ne vous l'apprends pas. Cela fait bien longtemps que les sociologues et les anthropologues nous disent que le genre n'est pas quelque chose d'inné, mais d'acquis. Notre sexe biologique, notre corps, c'est une chose. Mais notre identité, elle, est construite. Elle s'apprend. Alors comment ? Eh bien, par l'éducation, évidemment. À commencer par la pratique du jeu. Difficile de faire plus stéréotypé. Les petites filles sont mises à faire la cuisinière, la ménagère, la marchande ou la maman. Les petits garçons sont mis à jouer au justicier, au bâtisseur, à l'homme d'action. On apprend ainsi, dès l'enfance, à se rattacher à un genre, à se conformer aux stéréotypes et aux rôles imposés à chaque sexe. Mais ce n'est pas tout. En 2006, un rapport officiel suédois a pointé du doigt des différences de traitement filles-garçons dans l'éducation. En filmant, les enseignants, durant leur travail, il est en effet apparu qu'ils accordaient, inconsciemment, plus d'attention aux garçons. Et également qu'ils avaient tendance à parler aux filles sur le ton de la conversation, en expliquant pourquoi agir d'une façon ou d'une autre, alors qu'ils donnaient plus facilement des ordres aux garçons. Alors cette éducation traditionnelle, qu'elle soit consciente ou non, elle est de plus en plus décriée, évidemment. Pour les tenants de l'égalité des sexes, l'éducation devrait, au contraire, libérer les individus de ce formatage. Pour leur permettre de développer leur personnalité indépendamment de leur sexe. Et c'est pas encore gagné. Certaines attitudes, émotivité, frivolité, intrépidité sont encore acceptées ou au contraire proscrites en fonction du sexe. Pire, ne parle-t-on pas de part de féminité et de part de masculinité ? Comme s'il y avait quelque chose de féminin et de masculin par essence ? Si vous savez ce que c'est, je vous en prie, écrivez donc à Radio Grenouille, je serais curieuse de le savoir. Alors en France, les choses changent. Bon, vous me direz, pas trop vite et pas trop non plus. On est encore loin de ce qui se fait dans les pays scandinaves, par exemple. Mais quelques catalogues de jouets, comme ceux des magasins U, par exemple, présentent désormais des filles jouant avec des grues et des garçons tenant des poupées dans leurs bras. Mais la fin de la morvonnée et des boutons, ce n'est pas la fin du calvaire identitaire, car la construction des genres se poursuit encore à l'âge adulte. Par exemple, les vêtements et les coiffures que nous choisissons d'arborer disent beaucoup de nos appartenances. Ils annoncent la catégorie masculine ou féminine, mais aussi sociale et idéologique à laquelle nous nous rattachons. Ça ne vous aura pas échappé, le marketing entretient encore souvent les divisions et les stéréotypes des genres. Pour mémoire, l'objet du marketing est d'étudier un marché, de catégoriser, c'est-à-dire de le sectionner en segments de consommateurs à peu près homogènes. Le but, c'est de pouvoir répondre à leurs besoins fonctionnels et symboliques de façon efficace. Un segment, une solution. Et pour cela, vous l'aurez compris, rien de mieux que des aspirations uniformisées, stéréotypées au sein de chaque segment. L'exemple le plus frappant, s'il en fallait un, c'est encore les rasoirs. Rosa paillette pour les femmes qui chantent « I'm your Venus » en maillot de bain sur une plage et chromé pour les hommes qui font de la Formule 1, naturellement. Alors que ce sont les mêmes lames. Je sais pas vous, mais moi, entre Barbie vétérinaire et Action Man, entre bikini chantant et Formule 1, j'ai du mal à choisir.
Merci Alicia pour cette chronique. Je réagis immédiatement sur ce que tu viens de dire en faisant un petit détour sur la publicité. Vous connaissez tous le slogan « Moulinex libère la femme ». Hein, voilà. Donc ça, on le connaît. Il est un peu dépassé, certes, dans l'histoire de la publicité, mais alors ça, c'était avant. Et pourtant, certaines annonces radio, télévisées ou papier sont toujours sexistes, voire de plus en plus choquantes. Parfois même sans réaction des principales intéressées, j'ai nommé les femmes. J'en vois quelques-unes
en face du studio. Intégration sociale des clichés quand tu nous tiens. J'en ai une autre qui est assez sympa. Babette, hein, la crème fraîche, je la lis, je la fouette et parfois je la passe à la casserole. Bon, ça se passe de commentaires.
Ah, on adore.
Soulignons simplement la gratifiante image mise en avant de la femme qu'on ne voit pas, hein, puisqu'on ne voit pas sa tête. Il ne faudra pas ensuite s'étonner d'être considéré comme le sexe faible. Le magazine Cosette, que vous connaissez tous, en a fait son cheval de bataille dans la désormais célèbre rubrique « On nous prend pour des quiches ». Au début de chaque numéro, par exemple, on a cette rubrique-là. Un exemple, vous voulez un exemple, donc le GPS pour filles. Hein, il existe, c'est tellement sympa ça. Alors en quoi ça consiste? Je voulais l'expliquer assez rapidement. En fait, le GPS pour filles est rose, et en plus d'indiquer l'itinéraire, il indique les coiffeurs et autres manucures aux alentours.
C'est hyper pratique.
Voilà, on vient de se faire prendre pour des quiches, c'est là, hein, tout de suite. J'en ai un autre, parce que j'en ai récolté quelques-uns. Notre point G se trouve dans la penderie, mesdames. Vous saviez ?
Oui.
On l'a trouvé, finalement, oui. Ça c'est une pub des Trois Suisses. Hein. On est passé de la femme coincée dans sa cuisine à la femme coincée entre ses cuisses. Je vous épargne évidemment les affiches où le corps de la femme est littéralement réduit à celui d'un objet sexuel, notamment, et là, c'est là que l'absurdité prend tout son sens, lorsque le produit mis en avant est un yaourt, hein, une voiture, un téléviseur ou un aspirateur. Il est d'ailleurs souvent rare que le visage de la gente féminine apparaisse à l'écran. J'ai notamment sous les yeux une publicité pour une voiture de sport très chic, un homme allongé sur une femme, tous deux en petite tenue. On ne voit pas le visage de notre attirante demoiselle et pour cause, cette dernière a sur la tête un magazine mettant en exergue la fameuse voiture. Pour le plus grand bonheur de monsieur qui peut allègrement tirer son cou tout en pensant à son joujou ronronnant à gros chevaux tellement orgasmique, pourquoi se priver? Le slogan de cette publicité, « The Ultimate Attraction ». No comment, hein, sur la dernière attraction, ce n'est évidemment pas... La demoiselle. Un petit extrait audio que je n'ai pu m'empêcher de vous faire écouter, chers auditeurs, c'est tout de suite et je compte sur vous, mes chers collègues, pour alimenter les réactions.
À la disparition du vieux roi, il fut décidé que celui qui réussirait à nettoyer le chaudron noirci monterait sur le trône. Beaucoup essayèrent en vain, jusqu'à ce qu'un mystérieux chevalier arrive muni de Sif-crème. Grâce à ses millions de microparticules, Sif-crème enleva 100% des taches, rendant au chaudron sa brillance et nettoyant même la saleté la plus tenace partout dans le château. Le chevalier fut alors couronné reine du royaume. Nettoyez tout ce que vous voulez, même ce qui semble impossible. Sif-crème élimine 100% des taches.
Et voilà, après bon. On dit que Jeanne d'Arc n'est pas une femme.
C'est ça, donc vous l'aurez compris. Seules les femmes, super, qu'est-ce qu'ils ont les deux là-bas là? Alors il y a les mecs qui se rebellent, hein, ça y est, ils se sentent plus... Est-ce qu'il y a Julien, Quentin, vous avez une réaction?
Allez, on nous a agressés, on ne répond seulement, hein, tout pacifiquement d'ailleurs.
Merci.
Non mais, remets-toi un petit peu de... Un petit peu d'harmonie dans ce studio. La question du genre n'est pas de faire des clivages. Voilà, ça c'est important, faut le rappeler à nos auditeurs. C'est de rassembler, hein, le rassemblement c'est maintenant. D'accord, mais vous aurez compris quand même, oui, que seules les femmes, même déguisées en chevalier, peuvent enlever les traces de saleté et accomplir comme il se doit les devoirs de tâches ménagères pour devenir la reine de la maison. Allez, c'est un peu limite. Quentin, fais-moi plaisir.
Oui, bien sûr.
Silence éloquent.
Bon, allez, on va enchaîner. Chers amis, il est quelle heure? 23h29. Bon. Bah, c'est bien.
Bon, non, voilà, 23h29, c'est bon.
On va enchaîner avec la Bretagne, si mes papiers sont bons.
Alors, je ne sais pas si c'est Gabriel Brest ou Gabriel de Brest.
Je pense que c'est de Brest.
D'accord.
Il nous écoute à Brest, j'espère qu'il nous écoute. En tout cas, on va écouter.
Apparemment, il nous écoute plus.
Il nous écoute pas.
Il nous écoute.
C'est vraiment pas sympa à Brest.
Eh bien, la France les écoute. En tout cas, ça s'appelle Naître et paraître. Et c'est tout de suite sur Radio Grenouille dans la nuit du genre.
Je suis un homme.
Je suis un homme.
Je suis une femme.
Je suis une femme.
Je suis un homme.
Je suis une femme.
Je suis un homme.
Je suis une femme.
J'étais garçon manqué quand j'étais petite. Mais je suis née femme et j'ai voulu être un garçon. Voilà.
Moi, je suis une femme.
Vous êtes une femme.
Jusqu'à la preuve du contraire, hein, et une grand-mère.
Alors là, pour des questions, c'est des questions. C'est vraiment rigolo. Hein,
vous êtes allé où? Enfin, il y a le panel de conneries. Quoi.
C'est
Qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes une femme?
Qu'est-ce qui me fait penser? Le fait que j'ai eu des enfants d'abord. Au moins, un homme ne peut pas en avoir jusqu'à preuve du contraire, mais ça viendra sûrement, puisque j'ai une petite fille en médecine, m'a dit on fait des progrès dans tout, donc on arrivera là aussi.
Je suis née homme. J'ai pas eu le choix, en fait. On m'a pas laissé le choix.
Je suis un homme. Parce que c'est écrit sur ma carte d'identité. Parce que je suis né garçon.
Qu'est-ce qui fait de moi une femme? Je suis pas une femme avec un grand F, quoi, mais... Mais bon, je pense que j'ai quand même des côtés féminins et voilà, et j'en suis contente et je les assume
Mais non, mais
je trouve votre question un petit peu bizarre. Oui, je vous avoue que c'est un peu bizarre. Si non, mais ça, c'est le problème de l'homosexualité. Oui, ils sont en train de préparer les enfants à l'école. Les petits, on va leur dire, il n'y a plus de différence entre un homme et une femme. Bon, c'est très bien. C'est être progressiste, ça.
Ça date depuis des siècles.
C'est ça, depuis des siècles.
Non. Il faut évoluer un peu, bon sang.
En quoi vous vous sentez homme?
De par la différence qu'il y a... Ce n'est pas des questions qui sont forcément simples.
Je n'ai pas l'impression d'être une femme dans l'image, enfin, d'envoyer une image d'une femme comme on peut s'imaginer une femme. Voilà.
On te prend pour un garçon, des fois?
Oui, souvent.
J'ai aucun des stéréotypes masculins, en tout cas. Et... Apparemment, le sens de l'orientation aussi est attribué aux hommes. Et je n'ai aucun sens de l'orientation.
En fait, c'est uniquement par le physique que je me sens homme.
Et bah, l'autre jour, à la poste, la personne qui a pris mon courrier, je pense qu'elle avait aussi des petits problèmes de vue, mais bon. Et voilà, elle m'a appelé monsieur, voilà. Ça m'arrive, relativement régulièrement. Mais bon, ça me fait sourire et c'est pas grave. Et voilà, et ça permet un échange. Je dis, bah non, en fait, je suis une dame. Et donc, la personne dit, oh pardon. Je dis, oh bah c'est pas grave. Puis voilà.
Oui, moi, je suis né homme, mais non, ça m'aurait pas dérangé. Je pense pas d'être né femme, en fait. C'est là... Je ne sais pas si c'est quelle est la part de hasard, mais on est homme ou on est femme ou...
Oui, je me sens homme parce que je crois que mon image est celle d'un homme. Après, j'ai l'impression qu'on a tous un côté masculin, un côté féminin, qu'à certains moments, dans nos comportements, on va plus avoir des comportements qui sont attribués dans l'imaginaire collectif à des comportements masculins ou à des comportements féminins. Mais dans la vie de tous les jours, je ne réfléchis pas, je me comporte comme je suis et je crois que les gens autour de moi voient un homme.
Vous êtes heureuse d'être une femme? On n'a pas eu le choix, mais on n'est pas malheureux.
Tout ça dépend des jours, de l'instant.
Oui, de l'instant.
Un jour, on a envie de se révolter, on se dit, merde, les bonhommes ont droit à tout ça encore, et nous, tatin, il faut se battre encore. Alors là, on a envie. Tiens, la prochaine fois que je viens, j'ai un homme, et puis je vais faire marcher aussi. Moi, je suis contente.
On est maman.
Je ne suis pas à ce point-là.
Non, on n'est pas encore névrosé à ce point-là.
Non, il serait temps.
Mais je trouve bizarre la question.
Oui, je suis
d'être une femme. Je ne me suis jamais vraiment posée, mais je pense que j'aurais bien aimé être une femme.
Pour quelle raison?
Peut-être parce que justement ça attise ma curiosité, et puis j'aimerais assouvir cette curiosité d'être un jour une femme. J'ai l'impression que l'éducation, la vie qu'on a vécue jusqu'à présent, on nous détermine quand on est petit, on nous dit qu'on est un garçon, on devient un homme, il y a un certain nombre de choses qu'on fait par éducation et par formation. Mais il est probable que si j'avais été éduqué différemment, j'aurais peut-être fait plus femme, ou plus féminin, ou plus masculin.
Ah non, mais c'est trop rigolo, son truc.
Oui, bon, ben, on va continuer, je vais...
Ben, c'est très bien, donc je traverse.
Au revoir.
Mais comment faire? Ce tissu ne peut pas bouillir. Maintenant, tout mon linge est impeccable. Pour enlever ses traces de graisse, pour décrasser à fond. Et le sol? Impeccable. Il y a de l'ammoniaque.
Je me marre, mais c'est
horrible.
Qu'est-ce
que c'est que ça?
Et le temps avance, puisqu'il est déjà 23h36 à Marseille et sûrement dans les autres villes de France. Autre ville de France qui nous diffuse d'ailleurs.
C'est la même heure à peu près. Il y a peut-être un décalage à Brest.
Mais ça devrait pareil, je pense.
Ils sont un peu décalés à Brest.
Donc, autre ville qui nous diffuse.
De toute façon, ils ne nous diffusent pas, donc...
Oui, mais bon, je voulais parler des autres,
à la limite.
Donc, les autres villes, comme Toulouse, Rennes, Paris, Orléans, Grenoble, Clermont-Ferrand, Bordeaux et Marseille. Donc on vient d'écouter Naître et paraître de Brest, c'est ça même?
Exactement, exactement.
Et la question c'est, est-ce qu'il y a de l'ammoniaque?
Il y a de l'ammoniaque.
Il y a de l'ammoniaque.
Une magnifique robe panthère vient de rentrer dans le studio. Et on va écouter Lauriane pour les égouttilles de Radiolab.
Ce soir, les écoutilles vous proposent une spéciale nuit du genre, non pas sur un groupe français, mais définitivement sur la scène underground. C'est Genesis P. O'Ride. De son nom et genre d'origine, Neil Megson est né en 1950 à Manchester. Plongé dans la musique depuis son plus jeune âge, il a été largement inspiré par John Cage, Frank Zappa et William S. Burroughs, qu'il a d'ailleurs eu l'occasion de rencontrer. Par l'intermédiaire de celui-ci, il fut initié au Magic, un système de magie réalisé dans le but d'obtenir un changement. Donc, on peut supposer également d'un changement de genre. À la fin des années 60, il se crée le personnage de Genesis P. O'Ride jusqu'à en faire son nom officiel. Influencé par sa compagne de l'époque, secrétaire, stripteaseuse et performeuse porno, son collectif Come Transmission va progressivement évoluer de la musique primaire vers des démonstrations évoquant les tabous, le sexe, le paranormal, le sadisme, l'automutilation et la scatologie. Leurs performances provoquent évidemment d'énormes controverses et débats qui vont jusqu'au Parlement du Royaume-Uni. Et ils seront considérés par la presse comme des fossoyeurs de la civilisation. Voulant se consacrer exclusivement à la musique, Genesis fonde ensuite, en 1975, le groupe mythique Throbbing Gristle. Mythique puisque véritable précurseur de la musique industrielle et expérimentale. En 1993, Genesis épouse Lady J. Breyer et se lance dans une expérimentation corporelle inédite en subissant des opérations de chirurgie plastique, dont des implants mammaires pour Genesis, dans le but de devenir physiquement semblable. Dans un documentaire de Marie Lozier sorti en 2011, leur étant consacré, The Ballad of Genesis and Lady J, on apprend que l'idée n'était pas d'être jumeaux, mais de former deux parties d'un nouvel être. Cet être pandrogyne s'appelle donc Genesis Breyer P. O'Ride. Mais je vous laisse de suite écouter un extrait de Soaring Gristle avec le titre Discipline, sorti en 1979 dans l'album 20 Jazz Funk Greats chez le label londonien Industrial Records.
Thank you.
vous avez été intrigué par cet extrait de Throbbing Gristle, vous pouvez trouver un extrait sur le Tumblr de la Nuit du Genre, tout aussi saisissant. Mais vous l'aurez bien compris, les écoutilles ont utilisé le thème du genre comme excuse pour vous faire découvrir cette légende de la scène underground qui continue d'inspirer par ses compositions comme ses monstrueuses performances live. Alors, peu importe il ou elle, Genesis Pure Rage est une référence unique quand on s'attaque à la musique industrielle comme expérimentale.
Merci beaucoup Lauriane, tu as bien fait d'utiliser les écoutilles comme excuse ce soir. On continue, on avance un peu plus dans le trouble, dans le genre, sans vouloir ôter les mots et voler les mots de Judith Butler. On va continuer cette soirée et cette thématique genre avec un reportage sur le transgenre réalisé par Féministé à Clermont-Ferrand. C'est bien ça.
Féministez-vous.
Féministez-vous, pardon, j'ai oublié un petit bout.
C'est pas grave, ils ne nous en voudront pas.
J'espère bien.
Je l'ai dit dans le bon sens là.
Ils ne nous voudront pas.
Enfin bon, vous avez compris, en tout cas, c'est tout de suite le transgenre sur la France entière.
Sur la France entière.
Le monde entier.
Bonjour à toutes et à tous. Avant de débuter cette chronique, je voulais revenir sur quelques postulats pour apprendre au mieux les questions relatives au transgenre. Nous vivons dans une société hypergenrée, où le masculin et le féminin relèvent purement d'une construction sociale. Sur n'importe quel papier, que ce soit sur un passeport, une carte d'identité, un permis, carte vitale et même une carte de fidélité, nous devons systématiquement être homme ou femme, madame ou monsieur, ou encore un ou deux. Qu'est-ce que cela apporte de plus ? Eh bien c'est la grande question, mis à part de tous nous faire rentrer dans des cases. Dans ce contexte, s'interroger sur le transgenre n'est vraiment pas aisé, et cela amène à une remise en cause totale du modèle social que l'on nous transmet. Pour préparer cette chronique, je me suis intéressée au sens des mots. En effet, on emploie le terme trans pour signifier un état de changement. Il est utilisé pour parler des personnes dont l'identité de genre est en contradiction avec leur sexe biologique. Beaucoup de personnes sont hostiles à l'utilisation du terme transsexuel. Dans la mesure où il n'est pas question dans le ressenti trans de sexualité, mais bien d'identité de genre. Ici, mon propos n'est pas de dire ce qui est vrai ou faux, ni de porter un jugement, mais d'expliquer qu'il existe une grande diversité de situations vécues. Une personne transgenre veut que son apparence reflète son identité de genre, sans aller forcément jusqu'à l'opération. Cela passe par le port de vêtements ou d'objets traditionnellement attachés à un genre, par exemple talons et boucles d'oreilles pour les femmes, cravates pour les hommes, etc. À ce stade, on parle de travestissement. C'est la prise d'hormones qui va modifier l'apparence physique. Pilosité plus grande pour les femmes, cheveux et ongles poussant plus vite pour les hommes. Pour autant, les personnes transgenres ne se définissent pas forcément comme des garçons ou des filles, ne voulant pas forcément être enfermées dans une catégorie ou un comportement. Un ou une transsexuelle est une personne qui a changé de sexe à l'issue d'une opération chirurgicale. C'est une étape supplémentaire après la prise d'hormones. Le processus est très long et souvent semé d'embûches, tant médicales que psychologiques ou financières. Le changement chirurgical, comme les demandes de modification d'état civil et autres reconnaissances par les autorités, sont soumis à l'accord d'une équipe de médecins et de psychiatres. Aujourd'hui en France, le travail à accomplir pour le bien-être des personnes trans est encore très important. On peut aussi estimer que le parcours de soins et de santé que doivent suivre les personnes qui veulent changer de sexe est une négation de la dignité humaine. Sans aller jusqu'à l'opération chirurgicale, il est aujourd'hui extrêmement compliqué pour une personne de changer d'état civil. Toutes ces marques de rejet et de violence à l'encontre des personnes trans sont désignées par le terme « transphobie ». Les trans posent la question de la frontière entre le masculin et le féminin, et c'est principalement cela qui dérange. Dans notre pays, ces sujets restent encore très tabous, bien souvent par méconnaissance ou ignorance de la réalité. Aujourd'hui, l'ensemble des différentes organisations sont rassemblées autour d'un large consensus pour revendiquer l'urgence de l'aménagement de dispositions visant à lui assurer une réelle reconnaissance de sa population, et ce, afin de lui permettre d'accomplir un parcours de réassignation sexuelle de façon humaine et satisfaisante, et qu'elle accède à une intégration pleine et entière dans notre société.
C'était Féministe et vous de Clermont-Ferrand, un documentaire sur le transgenre. Féministe et vous, eh bien, qui nous écoute peut-être, puisqu'on est diffusé sur Clermont-Ferrand, mais aussi sur Marseille, sur Toulouse, sur Paris, sur Rennes, Orléans, Grenoble et Bordeaux. Je crois que j'ai oublié personne. Vous êtes toujours dans la nuit du genre. On est ensemble en direct jusqu'à 2h du matin. Et ensuite, pour continuer les festivités, jusqu'à 5h30 du matin en écoutant divers modules. On vous laisse la surprise. C'était donc Clermont-Ferrand. Et tout de suite, eh bien, on retrouve Marc Bernardo, qu'on a écouté tout à l'heure sur les armées de réserve. C'est bien ça ?
De confort.
De réserve,
de confort, de réserve et de confort, pardon, autant pour moi. Et Hélène Thomas, vous savez, c'est la Bernard Pivot qui nous donne des petites définitions à chaque heure. Ils sont là tous les deux au micro de Mélanie et Mélanie, un duo de choc, de chic et de charme.
Alors merci de nous avoir rejoints tous les deux. Je rappelle très brièvement pour nos auditeurs, Hélène Thomas, vous êtes professeure de sciences politiques à l'Université d'Aix-Marseille. Comme ça qu'on dit maintenant. Hein.
C'est comme ça qu'on dit.
Au laboratoire de théorie du droit, Marc Bernardo, vous êtes professeur de sociologie à l'Université du Havre. On n'ira pas plus loin dans les présentations. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par Marc. On ne fait plus de galanterie ce soir puisque le genre n'a plus sa place ici. Donc Marc, une première question. Comment le genre a-t-il fait irruption dans vos travaux de recherche ?
La question du genre était centrale, mais nous ne le savions pas. Dans les travaux d'Hélène comme dans les miens, la question du genre était au centre de nos travaux. Hélène travaillait depuis des années, depuis la fin des années 80, sur les femmes très âgées en institution. L'essentiel des vieux sont des vieilles, pour des raisons démographiques diverses. Et moi, je travaillais sur les travailleurs migrants dans les foyers, et qui étaient à 95% des hommes. Et nous n'avions pas forcément les bons outils pour comprendre de quoi il s'agissait. Nous n'avions pas lu Cynthia Hello sur ses travaux sur les hommes en armes et les femmes de service, qui ont été repris par Jules Faquet dans différents travaux récents. Et nous avons mis un bon moment, malgré des lectures, malgré des études, pour comprendre que la question du genre était centrale.
Alors le genre, c'est un outil. Je fais juste une petite parenthèse. Pour vous, Marc, c'est un outil ?
Non, c'est un outil subversif dont nous avions besoin pour décapsuler toute une série de catégories, de représentations, y compris les nôtres, et peut-être d'abord les nôtres. Et le genre est d'abord un outil de subversion politique.
Vous êtes tous les deux professeurs, et donc la question qui va découler tout ça, c'est de savoir comment est-ce qu'on enseigne les gender studies aujourd'hui en France ? Est-ce que finalement ça peut s'enseigner ?
Depuis une dizaine d'années, un certain nombre de séminaires à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris 8 se sont développés avec la tentative de transférer en France les gender studies anglo-saxonnes qui avaient du mal à franchir les barrières protectionnistes de la recherche et des intellectuels français qui sont très universalistes, très égalitaristes, très laïques.
C'est le côté républicain qui est...
Mais qui sont surtout très blancs et très bourgeois.
Hélène Thomas, vous voulez répondre ?
Oui, on ne peut enseigner le genre que par l'exemple. Et d'abord, pour moi, ça a été de prendre conscience que j'étais une fille. Alors, je n'ai pas pris conscience que j'étais une fille très tôt. J'ai pris conscience que j'étais une fille quand je suis devenue professeure d'université. Parce que là, on m'a donné du madame. Avant, on me donnait du madame mademoiselle, parce que je n'avais pas d'alliance. Et on m'a donné du madame le professeur. Alors, pourquoi j'ai appris quand j'étais devenue professeure d'université ? Parce qu'en face de moi, j'avais des étudiantes. Et des étudiantes qui me disaient, ça n'est pas possible. Pour moi, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible de passer tel concours parce qu'il y a 80% de chances que je ne le réussisse pas. Donc, je suis du mauvais genre. Et moi, j'avais toujours pensé que j'étais mauvaise quand j'arrivais pas à réussir les examens ou quand j'arrivais pas à réussir les concours parce que j'étais pas au niveau de l'universalisme abstrait neutre, donc du genre masculin républicain, et que j'avais choisi le mauvais objet. Bref, j'avais tout faux et j'ai compris que c'était au travers de cette expérience-là, une fois que j'étais arrivée à la place d'un homme, parce que dans ma discipline, il y a moins de 10% de femmes qui sont professeurs d'université.
C'est un milieu très masculin.
C'est un milieu très masculin que, une fois que j'avais pris la toge de l'homme, que je pouvais porter enfin la robe,
finalement,
à la Jean-Paul Gaultier, j'avais des choses à raconter. Et les choses que j'avais racontées passaient par l'exemple de ce qui m'était arrivé, c'est-à-dire de considérer qu'il y avait une sorte d'universalisme abstrait dans le concours républicain et démocratique, ce qui n'est absolument pas le cas. Et toutes les théories sociologiques qui permettent d'expliquer ça, le plafond de verre, hein, on explique que les femmes, elles n'arrivent pas à réussir les concours parce qu'elles ne vont pas les passer. Et elles ne vont pas les passer parce qu'elles ne se sentent pas au niveau. Alors que c'est très étonnant, les filles réussissent beaucoup mieux dans toutes les études, à tous les niveaux, que les garçons. Mais il y a ces théories du plafond de verre. Et le plafond de verre, il faut le briser. Et on ne peut le briser que quand on l'a traversé.
Vous disiez que c'était des étudiantes finalement qui vous avaient fait rire, enfin qui vous avaient révélé ce genre féminin. Est-ce que les gender studies s'adressent à tout le monde ou surtout aux filles, aux femmes? Est-ce que ça touche plus les femmes que les garçons?
En matière de pédagogie et d'enseignement supérieur, ça s'adresse surtout aux filles. Mm-hmm. Pourquoi ça s'adresse surtout aux filles? Parce que c'est elles qui s'interdisent ou à qui on interdit ou à qui on met dans la tête depuis l'éducation des petites filles qu'elles ne peuvent pas faire telle ou telle chose alors qu'elles en ont la vocation. Et donc, effectivement, c'est un enseignement qui doit fonctionner sur une idée qu'il y a une construction du genre et il y a une dévalorisation qui conduit à une autodévalorisation de soi-même chez les étudiantes.
Alors moi, j'avais un professeur qui m'a surprise un jour. Il m'a dit, c'est un homme, il m'a dit, je suis féministe. Marc, est-ce que vous êtes féministe?
Je ne crois pas, je dirais plutôt que j'aime dans le féminisme, mais plutôt le post-féminisme, sa dimension révolutionnaire, subversive. C'est du vitriol sur nos catégories d'appréhension, et c'est à ça que ça sert dans un rapport pédagogique.
Finalement, la question du genre, elle est toujours un peu politique, on peut le voir. Est-ce que les gender studies transforment finalement notre rapport au monde, nos représentations politiques du monde?
Elle est fondamentalement politique et on en a besoin pour ça. Les figures émergentes dans les gender studies, ce ne sont pas des figures à proprement féminines. Je parlais tout à l'heure à propos de capture des armées de confort de la globalisation. Les femmes ont servi dans le système patriarcal d'animal de logistique, mais elles servent maintenant de porte-à-faux de la globalisation impériale. Les gender studies, c'est d'abord un outil d'émancipation individuelle et collective, autant des enseignés que des enseignants. C'est bien ça qui était mon problème numéro un pour me lancer dans de la sociologie du genre avec des étudiantes. C'est quelle est la légitimité d'un bonhomme de 50 ans, blanc, professeur d'université, éduqué dans un système puissamment patriarcal. Il a fallu que je rentre dans cette question sur la pointe des pieds.
Et justement, comment elles le reçoivent tout ça?
Elles m'ont pris un peu d'eau au début, hein, je dois dire. Mais le fait que j'explique que j'allais tout autant m'émanciper que j'espérais qu'elle puisse le faire a permis de rentrer progressivement dans des travaux pratiques. C'est-à-dire étudier les représentations, étudier les publicités, les discours, en partant de formes assez classiques, hein, de réflexion sur le statut des femmes. Mais très vite, on en est venu à des figures essentielles, subversives et politiques, le cyborg, le ou la drag queen, le vampire, toute une série de figures qui sont émergentes et qui sont décisives pour casser les frontières, casser les représentations.
Et l'homme dans tout ça? L'homme dans ces gender studies, comment il peut trouver sa place justement? Qu'est-ce qu'il peut, parler d'émancipation justement, qu'est-ce qu'il peut trouver comme réponse à des questions qu'il n'a peut-être pas, ou qu'il n'a peut-être pas à considérer jusque-là?
C'est aussi un instrument de libération pour les hommes, dans la mesure où ce sont des carcans, où on dresse les petits garçons comme des petits chiens. La grande théoricienne post-féministe Donna Haraway a répondu à Michel Foucault et à sa naissance de la clinique par la naissance du chenil. Ça dit bien la démarche de Haraway. Nous avons besoin, nous aussi les hommes, de nous débarrasser de ces injonctions à la domination, de ces injonctions à la puissance. Et je le disais tout à l'heure, c'est un outil d'émancipation pour le pédagogue et pour les enseignants.
On va faire un petit détour, Mélanie. Je pense que tu voulais parler du care, justement. On a esquissé tout à l'heure une réflexion sur l'éthique du care, l'éthique de la sollicitude. Et c'est quelque chose d'un peu nouveau là, qu'on découvre petit à petit dans les gender studies. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot,
Hélène? Alors, cette éthique de la sollicitude, elle vient de féministes new-yorkaises blanches. De 50 ans elle a été importée par des sociologues féministes parisiennes blanches de 40 ans. Et cette importation dit bien ce que c'est, c'est-à-dire que c'est une problématique qui est incomplète. C'est une problématique, si on la résume, qui dit il faut pouvoir faire rentrer les femmes dans l'espace public en valorisant les tâches dévalorisées, les tâches de soins aux autres, les tâches de ce qu'on appelle le dirty work, en anglais le sale boulot. Et en réalité, cette problématique est une problématique qui blanchit tout le monde, puisqu'elle met en avant le travail domestique des femmes occidentales, et elle laisse de côté le fait que l'invisibilité, c'est celles qui font effectivement le sale boulot, c'est-à-dire les nouvelles domestiques du XXIe siècle, et elles ne sont plus, pour ce qui concerne la France bretonne ou auvergnate, mais elles viennent de tous les pays du monde, et elles sont dans une position de montrer cachées. Alors, on les montre quand on passe du mauvais côté de la migration, l'illégalité, la prostitution qui peut aller avec ces tâches-là quand elles arrivent, parce que le choix, c'est le ménage ou la prostitution dans les transferts de population sans papier. Et on a laissé de côté l'idée que finalement, il faut mettre en avant des gender studies et une théorie du care qui serait des migrations de travail. Là, on rencontre la problématique des classes sociales et des races, et qu'il faut mettre en avant cette idée qu'on a une domination qui est double, c'est aussi une domination des femmes blanches sur les femmes de couleur.
Une dernière question très rapide à vous deux. Hélène, vous avez sorti un livre qui s'appelle Les Vulnérables, un ouvrage. Moi, c'est le terme qui m'intéresse plus que le sujet. Est-ce qu'on est tous vulnérables ?
Alors ça, c'est ce qu'on répondrait si on était dans une théorie mystique de la fragilité féminine, de la fragilité masculine qui se cacherait derrière cette virilité construite. En réalité, non. La vulnérabilité est une catégorie, comme la vieillesse, comme le genre. Et ces catégories-là, elles ne s'appliquent qu'aux fractions dominées des populations, aux fractions dominées et jamais aux fractions dominantes. Il ne viendrait jamais à l'idée de quelqu'un de traiter Madame Bettencourt de vieille. Même si maintenant elle est en état de faiblesse, vulnérabilité, faiblesse, fragilité, les images vont avec ce portrait de ce qu'on appelait avant la femme-enfant, la poupée, qui est maintenant le cyborg Anita, ou le cyborg aide-soignante du grand-père dans la série 100% humain.
La question, c'est de s'émanciper de tout ça. Merci beaucoup à vous deux d'être venus dans les studios de Radio Grenouille.
Merci beaucoup.
Merci à vous de votre invitation.
Merci.
Merci Hélène, merci Marc. Et on passe maintenant à un reportage sur la transidentité en dehors de l'Occident, réalisé par Radio Campus Avignon.
Genre des genres, troisième genre. On s'imagine à tort que la transidentité est un phénomène moderne issu de la libéralisation des mœurs et de la sécularisation de nos sociétés occidentales. Or, de tout temps, dans plusieurs civilisations à travers le monde, il a existé des individus dont le genre n'était ni homme ni femme. Dans les civilisations précolombiennes, par exemple, Maya, Inca, Olmec ou encore Aztec, les chamans appartenaient souvent au troisième genre. Encore de nos jours, chez les descendants des Zapotèques, dans l'état de Oaxaca, dans le sud du Mexique, les mouchés sont des transgenres hommes vers femmes très respectés qui assurent la perpétuation des fêtes ancestrales et des danses traditionnelles. Elles peuvent soit se marier avec des femmes ou vivre avec des hommes, leur transidentité étant comprise par la communauté comme totalement indépendante de leur sexualité. Chez les tribus amérindiennes de la nation Blackfoot, plus au nord, les transgenres appelés berdaches ou êtres aux deux esprits constituent aussi un genre social à part entière, en remplissant le rôle de chaman. On raconte que quand une femme enceinte rêve de son futur enfant endossant un rôle assigné au sexe opposé, celui-ci sera un être aux deux esprits. En Inde aussi, les transgenres, appelés hijra, auraient des pouvoirs spirituels. Par exemple, en invitant une hijra à un mariage, on s'assure de la fertilité future des jeunes mariés et de leur descendance. Plus loin, en Thaïlande, il existe plus de 180 000 transgenres appelés Katoy. Ils sont assez bien acceptés dans la société thaïlandaise, étant donné que la religion bouddhiste conçoit la réincarnation dans le corps opposé. Néanmoins, ils sont assez mal vus par la société, puisque en étant réincarnés dans le corps du sexe opposé, c'est une punition divine, punissant un inceste ou une faute sexuelle dans la vie précédente. En Iran, où la religion a aussi un rôle prédominant, l'homosexualité est punie de la peine de mort. Néanmoins, plus d'un millier de personnes ont changé de sexe, étant donné que l'ayatollah Khomeini a accepté le principe de transidentité, et donc les transsexuels sont assez bien acceptés. Finissons notre tour du monde en 80 genres, ou presque, par un pays plus proche de nous. En Albanie, depuis près de 5 siècles, les Burneshas sont des femmes qui assument le rôle social des hommes en cas de non-descendance masculine dans le clan.
Le genre, c'est l'identité sexuelle, hein, donc comme je disais, pas simplement le sexe biologique. On peut le comprendre comme une norme extérieure et culturelle intériorisée par les sujets que nous sommes. En gros, ce que dit Butler, c'est que nous incorporons une identité. Incorporer, c'est très fort, hein, ça veut dire que nous devenons ce que nous sommes par intériorisation, en faisant nôtre une identité que la société nous donne.
C'était un petit micro sur les transidentités en dehors de l'Occident. Vous êtes sur Radio Grenouille, il est 00h01.
On va écouter Ayo. I want to break free.